Bonjour tout le monde. Merci à l'organisation pour l'invitation de cette conférence. Moi, je suis Annelies Kunz et avec ma collègue qui est là, Stéphanie Van Dossela, nous sommes les deux coordinatrices de Public, un projet qui vise à améliorer la qualité des espaces publics à Bruxelles. Nous allons vous présenter un outil qu'on a développé l'année passée, qui est le guide des espaces publics bruxellois. Cet outil s'est appliqué sur des cas bruxellois, mais peut être inspirant pour vous tous. Donc, le projet Public est né en 2007, donc cette année nous fêtons en 10 ans, et a vu le jour suite à un moment clé pour l'espace public à Bruxelles, qui est le réaménagement de la place plagiaire Excel, commune dans le sud de la région. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire de réaménagement, mais avec l'expérience de ces événements qui sont liés à cet réaménagement, la politique a vu la nécessité de stimuler la culture de l'espace public. Ils ont libéré des financements afin de mettre en place une antenne et une formation sur l'espace public qui se focalise sur les administrations de la région de Bruxelles-Capitale. Et donc, c'est de là où Public a commencé. Aujourd'hui, Public est un consortium de 4 universités d'architecture bruxelloises, de néerlandophones et de francophones, et financé par 4 cabinets bruxellois, le cabinet pour la mobilité, développement territorial, environnement et propriété publique. Donc avec un centre de connaissances et un centre de formation, ce projet forme, sensibilise et informe les professionnels et le grand public sur les espaces publics de qualité. Dans le cadre de notre mission, nous avons travaillé l'année passée sur ce qu'on vous présente aujourd'hui, le guide de l'espace public bruxellois. Afin de pouvoir répondre d'une manière qualitative aux plusieurs différents enjeux de l'espace public, le guide veut être un document de référence. Et donc, ce guide a été mis en place en collaboration avec le bureau d'études Engineering et nos graphistes Nicolas Rome et Elise Nérin qui ont mis en forme tout ça. Donc, le point de départ de notre guide était la connaissance et l'expérience que Public a construit au cours des années et avec une série de bons exemples. L'objectif du guide est de définir des principes d'aménagement et de conception des espaces publics pour l'ensemble du territoire bruxellois. Mais ce ne sont pas des solutions prêtes à l'emploi qui sont proposées, mais plutôt des ambitions générales qui permettent de cerner les objectifs pour un aménagement qualitatif. Donc aujourd'hui à Bruxelles, il existe une multitude de documents techniques et sectoriels, mais il manquait un document qui englobe une vision d'ensemble. Donc c'est à ça que le guide veut donner une réponse. Sans pour autant oublier la singularité de chaque espace et donc le fait qu'il doit être approché aussi de manière contextuelle. Le guide s'adresse aux acteurs opérationnels, donc les agents communaux et régionaux, aux concepteurs chargés de l'aménagement des espaces publics, mais veut être en même temps aussi compréhensible pour le grand public. Le résultat de ce guide, c'est un site web. On a choisi pour un site web parce que c'est une manière dynamique et transversale pour présenter le contenu. Donc, ça nous permet de faire des hyperliens qui renvoient vers les différentes parties et les documents techniques qui existent et la possibilité de continuer à nourrir son contenu. Donc, le site web est construit de 4 blocs. Le premier bloc, c'est le contexte, c'est la partie plus théorique qui explique le contexte bruxellois et les différentes typologies. Puis, dans le bloc ambition, il y a 6 ambitions qui sont déclinées. Il y en a 2 qui sont liées à la gestion et 4 qui sont plus liées à l'aménagement. Dans la partie application, 10 projets exemplaires sont analysés selon ces 6 ambitions. Et enfin, dans la partie prospection, des nouveaux technologies sont explorées qui sont issues de l'urbanisation de la ville du XXe siècle. Donc, le guide définit donc 6 ambitions pour le développement d'un projet d'espace public de qualité. Ces 6 ambitions sont divisées en 2 ambitions qui sont liées à la conduite du projet. Donc le processus, un espace pour la démocratie qui est plus lié à la méthodologie du projet, et l'économie, un fonds à l'investissement qui traite l'investissement dans sa signification large. Les 4 autres ambitions se focalisent plus sur l'aménagement même de l'espace. Donc il y a le maillage, un espace pour la connectivité ou comment intégrer le projet dans son contexte, le partage, un espace pour la convivialité ou comment concevoir un espace public pour tout le monde, l'écosystème, un espace pour la nature ou comment l'espace public peut apporter à la nature en ville, et enfin l'esthétique, un espace pour la culture ou comment l'espace public peut exprimer les aspirations d'aujourd'hui en tenant compte avec la patrimoine. Pour vous montrer comment les différentes ambitions sont déclinées sur notre site, donc, chaque ambition est développée en une série de points d'attention et chaque point d'attention est développé dans une série d'actions. Et comme vous voyez, il y a à chaque fois aussi les liens vers les applications pour montrer comment les différentes ambitions sont appliquées et le lien vers les ouvrages qui existent déjà en région bruxelloise. Dans la partie application, nous avons analysé 10 projets exemplaires de différentes typologies et un peu partout sur le territoire bruxellois. Donc, les différentes ambitions ont été les différents thèmes pour cette analyse. Dans les prochains slides, nous allons vous présenter les 6 ambitions à travers des 6 projets. Donc, de cette manière, nous voulons vous montrer comment les ambitions peuvent être appliquées d'une manière concrète. Donc, le premier projet, c'est le croisement rond, situé dans la commune de Forêt, une commune qui se situe dans le sud de la région, comme vous pouvez voir sur la carte ici. Aujourd'hui, c'est une place qui est une charnière importante au niveau local dans la vie du quartier. Avant son aménagement en 2006, l'espace public est un carrefour qui est voué essentiellement à la circulation de la voiture et au stationnement. Donc, l'espace central est difficilement accessible et donc pas utilisé, donc l'atmosphère du lieu est peu conviviale. En 2014, l'espace public est transformé en piétonnier et cet aménagement a permis une plus grande diversité d'usages en lien avec les bâtiments riverains, notamment le développement des terrasses d'Horeca. Sur la place, la circulation piétonne est privilégiée et il y a entre autres les parcours scolaires des enfants qui est sécurisé par une limitation des traversées de voies. Si on va regarder le processus de ce projet, on distingue le cadre formel et le cadre informel. Le projet a été développé dans le cadre d'un contrat de quartier. Donc les contrats de quartier à Bruxelles, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des programmes de revitalisation initiés par la région de Bruxelles-Capitale, menés dans des différents quartiers fragilisés et en partenariat avec les communes. Ces programmes prévoient différentes opérations au sein du même quartier à réaliser dans une période de 4 ans. La zone d'intervention du projet est donc définie en cohérence avec l'ensemble du programme et la rénovation urbaine, et la mission a été attribuée par une procédure négociée. Puis, la mission délicate de transformer un espace utilisé exclusivement par la voiture en vue d'y établir une zone piétonne, l'équipe de projet a décidé de définir un budget fixe attribué pour établir la mise en place d'un processus participatif. Donc, l'équipe était une équipe pluridisciplinaire qui réunissait des architectes, des sociologues et des paysagistes et qui ont organisé des différents ateliers avec les associations, les écoles, les acteurs locaux dès l'avant-projet. Comme vous pouvez voir sur la ligne du temps, donc il y a le contrat de quartier, il y a les ateliers ici, tout ce qui est plus lié à la participation intégrée dans le cadre informel. Mais néanmoins, des moments de participation, il y a quand même eu une pétition, comme vous voyez ici, une pétition de 800 signatures qui a été déposée contre le projet. Et donc, pour donner une réponse à cette pétition-là, il a été décidé de réaliser un mock-up en collaboration avec les associations et les écoles. Et donc, à l'aide des bacs à plantes, le futur aménagement a été simulé afin de convaincre les gens pendant l'enquête publique. Donc, après son évaluation, le collège a exprimé son accord pour le projet, le permis a été attribué et le réaménagement de la place s'est terminé en 2014. Dans le résumé, je vais passer, là vous voyez en fait les différents points d'attention qui ont été établis pendant le projet et vous voyez aussi à chaque fois ça renvoie vers les ambitions plus générales que, qui sont ici. Donc, si on va... ah oui, ce que je voulais encore dire ici, aussi, quand il y a des points d'amélioration, on les a stipulés aussi dans la résumé. Donc ici, il y a eu le point d'amélioration de mieux communiquer et de s'accorder avec les services internes pendant tout le déroulement d'un projet parce qu'il y a eu des malentendus au cours du projet. Donc, quand on va regarder les points d'attention de l'ambition processus plus en général, il y a le mener une conduite transversale et interdisciplinaire, assurer la qualité du dialogue tout au long du processus. Donc ici, c'était le point d'amélioration. Organiser la coproduction d'espaces avec les acteurs représentatifs de la multiplicité des usages et leur temporalité. Donc ici, c'est les différents ateliers, le fait d'avoir organisé un mock-up où les gens étaient, étaient vraiment impliqués d'une manière physique dans le projet. Ça les aide de se projeter et aussi de s'approprier l'espace public plus facilement par après. Et de définir une démarche et choisir les bons outils pour mener une conduite de projet efficace et assurer la qualité de l'aménagement. Donc, ce qui a été ici, le budget de la qui a été vraiment clairement défini pour faire la participation et l'outil du mock-up pour faire une mise en situation. Le deuxième projet qu'on veut vous présenter cet après-midi, c'est la rue Henri Berger. C'est une rue qui se situe dans la commune de Schaerbeek, au nord de la région. Donc, une rue qui se trouve dans un quartier résidentiel dense. Et c'est en fait une rue de tous les jours. Donc, avant son aménagement en 2002, la rue est très minérale, il n'y a pas de plantation. Ses trottoirs sont très étroits et la voiture monopolise beaucoup l'espace. Des parkings ne sont pas marqués, donc du coup les voitures se garent où elles peuvent, soit le long des trottoirs, soit au coin des rues, à proximité des passages piétons. Et donc après son aménagement, le caractère de la rue Henri Berger est transformé avec des moyens assez modestes. En élargissant les trottoirs, qui était la première intention du projet, et la plantation des arbres, le caractère de la rue est complètement transformé. La rue est plus accueillante vis-à-vis des piétons et l'omniprésence de la voiture est fortement réduite par la suppression d'une bande de circulation. Donc la rue est mise en sens unique et la réorganisation du stationnement. Donc le réaménagement de la rue Henri Berger s'inscrit à la fois dans un contrat de quartier et un plan de circulation du quartier. Quand on va regarde plus l'aspect économique, donc l'ambition économique pour ce projet, le réaménagement de la rue a stimulé l'activation des rez-de-chaussée et l'appropriation d'espace. Donc il y a plusieurs terrasses qui ont installé leurs terrasses au coin des rues, et ici et ici. Il y a aussi un magasin qui a profité des trottoirs plus larges pour y installer son étalage. Et donc, il y a à côté de ça aussi une grande importance qui a été accordée à l'accessibilité des commerces pendant les travaux et les nuisances de chantier. Donc, l'entrepreneur dans ce projet a présenté un plan trafic pour gérer la circulation et le stationnement des voitures, les modes actifs et le bruit. Et l'objectif de ce plan était de déranger au minimum le quotidien des usagers. Donc ici aussi, quand on va voir les résumés, donc vous voyez ici les points d'attention, favoriser l'activation des rez-de-chaussée et respecter les usagers en minimisant les nuisances de chantier qui renvoient à chaque fois au point d'attention pour l'ambition économique en général. Donc, la prise en compte du coût global de l'aménagement. Donc, pour que le projet, les ambitions, pour faire correspondre les ambitions de projet au budget qui est prévu. Et à côté de ça, il est important de prendre en compte également le coût élargi du projet. Donc, un projet d'espace public peut aussi avoir un impact pour les occupants et les usagers des espaces directement desservis et environnement. Et donc, c'est important de prendre ça en compte aussi. Et aussi d'être à l'écoute, de tenir compte du fonctionnement quotidien des usagers, des habitants, qui a été fort pris en compte dans ce projet-ci. Je donne maintenant la parole à Stéphanie qui va présenter plus les ambitions liées à l'aménagement.
Donc voilà, comme vous voyez, tous les projets qu'on présente, c'est des projets assez urbains, donc on s'excuse pour ceux qui travaillent vraiment en milieu rural, mais donc avec beaucoup de problèmes liés à la mobilité. Donc ici, je vais vous présenter le boulevard du Souverain, qui est un boulevard... Ouh là là, on ne peut pas toucher au fait. Qui est un boulevard de seconde couronne situé dans la commune d'Auderghem, donc qui relie de la commune de Watermaelbluff-Boisfort dans le sud et celle de Woluwe-Saint-Pierre dans le nord. Et donc, avant son réaménagement, comment est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est comme ça. C'était un boulevard avec un profil vraiment très large, avec une dominance naturellement en voiture et surtout stationnement. Il y avait un ancien tram qui a été enlevé dans les années 50 et la place de ce tram a été occupée ensuite par des stationnements et des pistes cyclables. Pour son réaménagement, il a été fait en plusieurs phases et le profil a été plus ou moins, enfin est le même, on va dire, sur le long du tronçon. Donc il y a de part et d'autre de la berne centrale le tram qui passe. Donc le réaménagement a été fait dans le cadre du prolongement du tram 94 qui va vraiment du centre de Bruxelles et qui a été prolongé pour faire vraiment une boucle dans le sud-est de Bruxelles. Et donc, avec cette double voie de tram de part et d'autre, ça a permis de laisser la berne centrale libre au mode de déplacement doux, donc cycliste, piéton. Les voies latérales ont été diminuées aussi, donc pour permettre de passer de trois bandes à deux. Le deuxième tronçon a concerné donc l'avenue Mandebro à l'avenue Tervuren, puis il y a eu un chantier jusqu'au métro Rodenbeek, et il y a à l'horizon 2020, un prolongement prévu jusqu'à l'aéroport. Et tout ça est sous schéma directeur pour assurer une cohérence sur l'ensemble. Ouh. Oh là là, décidément, je suis pas meilleure. Comment est-ce qu'on... Ah non, c'est juste, pardon, j'ai été trop loin. Donc, en termes de maillage, ce réaménagement a permis donc de créer des liaisons... des liaisons avec les modes de transport public, donc plus particulièrement avec le métro à Hermann-de-Brou, une piste cyclable continue, donc qui fait partie de l'ICR, donc l'itinéraire cyclable régional. Il a aussi permis, dans le réaménagement, a permis de renforcer la liaison verte qui permet donc de relier les espaces verts et les étangs de Watermaelbluff-Boisfort à ceux de Woluwe-Saint-Pierre, donc vraiment de relier différentes communes par ce maillage vert, et d'intégrer aussi la promenade verte régionale. Et puis de plus, le prolongement de ce tram a permis donc de connecter les différents quartiers, mais aussi les espaces de loisirs et les différentes entreprises qui bordent le boulevard, à favoriser naturellement l'usage aussi des transports en commun et les modes actifs. Donc, le gros exercice pour nous aujourd'hui, c'est de passer d'une conférence de 45 minutes ce matin qu'on a donnée ce matin à 25 maintenant, donc je vais passer quelques petits slides, mais en gros, comme l'a expliqué Annelise, à chaque fois on résume les différents points d'attention qui sont liés à des généralités, et donc ici je vais vous en citer quelques-unes pour montrer comment ça a été appliqué, mais une des généralités qu'on avance pour l'ambition maillage, c'est d'augmenter la cohérence du lieu et d'assurer une vision d'ensemble, donc ce qui a été fait ici par la création de ce schéma directeur, ou par exemple encore d'améliorer la connectivité piétonne et cycliste et d'assurer la continuité de leur parcours, ce qui a été fait ici par cette prolongation de l'itinéraire cyclable régional. Pour l'ambition partage, je vais vous présenter le projet communal de la place communale de Molly. Que vous pouvez peut-être tous connaître vu que ça a fait l'objet de médiatisation pendant les attentats de Paris. Mais donc c'est une place qui se situe à Molenbeek vraiment juste à côté de la petite ceinture, donc tout près du centre-ville. Et donc c'est une place qui, avant son réaménagement, était dominée par la voiture, était un grand parking à ciel ouvert. Et qui, après son réaménagement, est devenue vraiment une grande esplanade majoritairement piétonne. C'est le premier espace partagé qui a été fait à Bruxelles. Et grâce à des arbres qui en sont plantés, un nouveau mobilier, une nouvelle fontaine, une œuvre d'art, ça anime vraiment la place. Il y a aussi un revêtement continu qui va de façade à façade. Donc en termes de partage, ce qui a été intéressant ici, c'est qu'il y a eu d'abord une première étude de mobilité qui a permis de déplacer en fait les parkings qui étaient sur la place dans un parking un peu plus loin, le parking Brinfo. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'à la base, ils comptaient faire un parking souterrain sous la place, mais grâce à cette étude de mobilité, ils se sont rendus compte qu'il y avait un parking existant qui était sous-exploité, donc ce qui a permis d'éviter ces travaux en souterrain et de garder le budget pour un espace beaucoup plus de qualité. Donc aujourd'hui, l'espace est un espace partagé où la voiture et les modes actifs se côtoient. La voiture y est limitée à une vitesse de 20 km/h et donc le revêtement en pavé permet de réduire également cette vitesse. Le revêtement est donc uniforme et donc il y a toute absence de lignes de séparation fortes comme des trottoirs, ce qui réduit donc l'impact du trafic et ce qui oblige aussi les véhicules motorisés d'être vigilants par rapport aux modes actifs. Malheureusement, actuellement, il y a encore toujours des voitures qui se garent sur la place. Donc ça, c'est vraiment une question de gestion qu'il fallait peut-être anticiper, mais qu'il faut absolument résoudre. C'est un espace vraiment commun qui permet aux usagers de se rencontrer et qui laisse aussi différentes appropriations possibles avec, par exemple, le marché hebdomadaire, mais aussi des événements plus ponctuels. Et donc, c'est à la fois un espace de trafic et un espace de séjour. Et la flexibilité donc de l'aménagement avec le regroupement des bancs permet aussi donc cette appropriation. Il y a eu justement en termes de points négatifs un retour des usagers qui se plaignent du manque de bancs ou en tout cas de leur caractère peu attrayant vu qu'ils sont en pierre. Donc voilà. Donc pour renvoyer aux ambitions générales de nouveau, je vais en citer que quelques-unes, mais par exemple, quand on dit ici s'inscrire d'une manière privilégiée dans la perspective d'un code de la rue élargi en prenant en compte les trois fonctions, passage, séjour et la desserte, donc ici la réponse par cette notion d'espace partagé où les différents usagers se côtoient dans un même espace, ou encore par exemple désencombrer l'espace et le rendre disponible, c'est vraiment en regroupant ces bancs qui a permis de dégager la place, naturellement en enlevant les voitures aussi, mais qui a permis ce dégagement de la place. Donc voilà. Pour la partie écosystème, on vous présente ici le parc de la Seine, qui est un parc qui se situe dans le nord de Bruxelles, à côté de la gare du Nord. Donc, vous avez la gare du Nord ici. Et donc c'est vraiment toute une liaison dans le quartier même. Donc en fait, avant son réaménagement, donc c'est l'ancien lit de la Seine. Et donc, dans les années 80, déjà, ce parc avait fait l'objet d'un réaménagement, mais il a été complètement abandonné. Et donc, il a ensuite, en 2016, été tout à fait réaménagé. Le sol a été dépollué pour lui permettre un espace public de qualité avec de multiples fonctions. Des voies pour des modes actifs, balades, lieux de rencontre, etc. Et donc, en termes d'écosystème, ici, ce qui a été réfléchi, ben, c'est naturellement le parc comme un nouveau lien dans le maillage vert régional, donc avec la sauvegarde de quelques arbres, mais malheureusement, quelques autres ont dû être abattus, mais avec une réflexion plus large sur la biodiversité en insérant différents milieux, donc aussi bien secs et humides, et avec des essences végétales diversifiées, mais en favorisant les essences locales, surtout les fruitiers. En termes d'eau pluviale, il y a eu une réflexion aussi en essayant de diminuer les surfaces imperméables et de permettre une infiltration des eaux pluviales dans les zones le long des cheminements. Et il y a aussi une récupération partielle des eaux pluviales pour permettre l'arrosage pendant les périodes de sécheresse. En termes de matériaux, il y a le bois qui est un bois certifié et durable qui a été choisi, et la pierre bleue, qui est une pierre naturelle et locale. Et aussi, des bordures existantes ont été récupérées. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tout l'aspect entretien a été réfléchi non seulement par le choix des matériaux, mais aussi pour le passage des véhicules d'entretien. Il y a aussi des potagers collectifs qui ont été créés pour créer un peu contribuer à la réflexion des habitants et contribuer à des comportements, on peut dire, éco-responsables. Donc ici, les différentes synthèses qui renvoient aux ambitions générales. Le petit point négatif ici, c'est qu'on a trouvé que ça manquait un petit peu un référent à la scène. Et donc, pour ce qui est des ambitions générales, donc de nouveau, je vais en prendre quelques-unes, mais par exemple, minimiser l'impact environnemental de l'aménagement, ben donc c'est par le choix des essences locales en termes de plantation, par le choix aussi des matériaux naturels et locaux pour la pierre bleue ou le bois. Aussi, tout ce qui est réfléchi, je ne sais pas où est le point, mais donc... Voilà, par exemple, réfléchir à la gestion ou induire des comportements éco-responsables. Donc ici, ça a été réfléchi en amont et les potagers permettent justement de créer cette cohésion sociale avec les usagers. Le dernier projet, on ne débarque pas trop, c'est la place Cardinal Mercier. Donc celle-là, on va vous la présenter pour illustrer l'ambition liée à l'esthétique. Donc c'est une place qui se situe à Gênes, donc dans le nord de Bruxelles, et qui se trouve donc coincée entre la gare, l'église Saint-Pierre et le parc Garcet, mais qui avant son réaménagement n'est vraiment pas utilisée comme parvis, qui était entièrement dédiée au stationnement et qui avait quelques petites peintures, voilà, comme vous voyez ici, qui signifiait les marquages. Donc après son réaménagement, c'est devenu un espace multifonctionnel avec qui assume vraiment son rôle de parvis, où les différents usagers s'y retrouvent lors du marché ou des différents événements qui animent la place, et où les différents modes de transport se côtoient. Le parking a été déplacé dans une friche derrière la gare. Donc en termes d'esthétique ici, ce qu'on peut montrer, c'est le choix des matériaux et l'attention portée aux détails avec le choix des bancs, le choix des abris en forme de parasol, le calpinage de la pierre bleue qui a été repris dans différents projets. Et aussi par exemple les grilles d'arbres qui reprennent le motif de feuilles qui tombent. L'ensemble de l'aménagement se veut sobre et cohérent. Et alors, pour donner des repères dans la ville, donc il y a ces abris en forme de parasol. Puis il y a aussi une réflexion sur l'éclairage nocturne pour mettre en valeur les différents bâtiments comme l'église et la gare. Les bâtiments remarquables et beaucoup pour créer ces points de repère dans la ville. Donc, de nouveau, la petite synthèse. Et donc ici, en termes d'esthétique, ce qu'on met en avant, c'est justement la mise en scène des séquences, encore le choix des matériaux, de valoriser les éléments et les ensembles urbains, ou encore, par exemple, penser l'art dans la ville avant de passer l'art de la ville avant de penser l'art dans la ville. Puis on veut juste conclure en vous montrant qu'on a essayé de développer un outil interactif sur le site, donc tous vos retours sont les bienvenus, vous pouvez aller le tester. C'est une espèce de checklist qui permet, si vous avez un projet en cours ou à réfléchir, qui permet de pointer différents points d'attention, différentes ambitions que vous voulez mettre en avant dans votre projet. Et donc à la fin de ce questionnaire, arriver sur un espèce de résumé qui permet d'être éventuellement de votre feuille de route du projet. Et cette feuille de route renvoie alors, dans le cas précis de votre projet, selon les ambitions cochées, les différentes applications qui reprennent ce genre d'aménagement. Voilà, je vous invite à aller voir tout ça sur publicspace.brussels.